7h25, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, pointe du doigt le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Dans le rapport qu'elle a rendu public hier, elle dit que M. Fitzgibbon a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour accorder 68 millions de dollars d'aide financière alors qu'on était en pleine pandémie à travers les programmes spéciaux et que ces 10 prêts problématiques ont été accordés donc à des entreprises alors qu'il y avait des critères très précis qui n'ont pas été respectés. Il est avec nous ce matin. M. Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, d'abord, est-ce qu'on s'entend sur les prêts qui ont été recensés par la vérificatrice, là, 10 prêts qui posent problème?
Écoutez, les faits sont vrais. Je confirme ce qui est mis dans le rapport. Il faut comprendre que le programme du pacte auquel on réfère a été fait 6 jours après que l'état d'urgence a été décrété le 13 mars dernier. Évidemment, tout programme, on veut normaliser le plus possible, mais c'est impossible. Donc, il y a toujours une flexibilité qui doit être accordée. Puis sur les 1100 quelques dossiers, ben, il y en a 25, je pense, qui sont passés au ministère. Donc, c'est un chiffre quand même petit.
Oui, mais elle n'a pas regardé tous les dossiers. Elle en a quand même trouvé 10 sur 25.
Oui, l'échantillonnage qu'elle a pris, à juste titre, elle a pris les cas qui étaient plus problématiques. Il faut comprendre encore une fois, là, le programme comme celui-là, et je regarde le résultat aujourd'hui, et je suis très fier de ce qui s'est fait. On a quand même plus que 30 % moins de fermetures durant la pandémie, qu'avant la pandémie, on était très rapide à mettre les programmes en place. Je pense que c'est bon.
OK, mais elle soulève 2 ou 3 questions. La première, est-ce que c'est pas injuste pour des entreprises qui, à partir des critères qui étaient connus, publics, disent ben, on n'est pas éligible, puis que ces entreprises-là n'ont pas l'aide financière? Puis là, oui, on découvre qu'il y en a qui répondaient pas aux critères, mais on s'est ajusté en cours de route.
Ben écoutez, on a mis une flexibilité. Comme le programme POPMI, il y a 2 programmes qui ont été mis en place. On a aidé plus que 13 000 entreprises. On a délégué beaucoup au MRC, au Fonds local d'investissement, et le message a toujours été le même. D'ailleurs, l'opposition me reprochait. Il fallait être flexible parce que on a une situation que personne n'avait pu prévoir. Alors, il y a eu une très grande flexibilité d'accorder au MRC, chez Investissement Québec, et moi je pense que c'est la façon de fonctionner. On ne peut pas tout normaliser dans un contexte dans lequel on vivait. Puis on regarde les résultats aujourd'hui, sur les 1100, là, je pense qu'il y en a 0,5 de 1%. Donc il y a 0,5 de 1% de sociétés qui ont fermé. Donc,
Mais dites-moi, pourquoi on accorde un prêt à une entreprise qui était en difficulté financière avant la pandémie?
Parce qu'il peut y avoir des raisons pourquoi. La règle qu'on avait mise en 6 jours, c'est qu'un an avant devait être profitable. Beaucoup d'entreprises ont des pertes parce qu'ils sont en développement ou il y a des situations particulières. Alors, il y a un jugement qui est apporté. Puis, il faut comprendre aussi que le jugement qui est apporté, ce n'est pas le ministre qui a dit on fait le prêt. Là. C'est venu par Investissement Québec, c'est venu par des gens professionnels. Donc, il y a 25 ou 30 projets sur 1100 qui sont montés au ministère parce qu'il fallait appliquer un jugement. Alors, moi, je trouve ça très, très bon.
Mais je comprends que vous avez ce pouvoir-là. On ne dit pas qu'il y a quelque chose d'illégal, mais dans la mesure où, puis je prends les cas là, qui sont relevés par Mme Leclerc, là, une entreprise qui, quelques mois après avoir obtenu le prêt, est en état de se placer sous la protection de la loi pour éviter la faillite. Dans l'autre cas, c'était une entreprise qui avait des troubles financiers depuis 3 ans. Là, tu te dis, mais il me semblait qu'on n'aidait pas ceux qui étaient dans le trouble avant.
Ben écoutez, il faut comprendre la raison. Bon, le cas, il y a eu 1 cas sur 10 qui a eu une fermeture, effectivement. C'est une erreur. On n'aurait pas dû faire ça. Mais de l'autre côté, encore une fois, je vais rajouter le chiffre, là. 1100 interventions dans le pacte, 0,5 de 1% des gens ont fermé. C'est un taux qui va remonter parce que c'est irréaliste de penser que les pertes sur prêt vont être si basses. Les CEO des banques aimeraient avoir une telle proportion. Donc, écoutez, il y a un jugement qui est apporté. Il y a quelqu'un qui a porté un jugement sur ce prêt-là. Et il y en a eu 25 ou 27 qui sont passés au bureau du ministère. Il y en a eu quand même 1050 qui ont été décidés par les gens dans les régions. Et moi, je pense qu'il faut donner beaucoup de valeur au fait qu'on a décentralisé. Hein. On sait comment ça fonctionne. Quand on centralise,
ouais,
vraiment, ça ne marche pas.
Mais je vous en ai déjà parlé de ce programme-là, justement, des différences entre, par exemple, la Rive-Sud ou à Montréal, puis des entreprises qui frappent quelqu'un qui est très, très, mettons, rigide, puis l'autre, tu frappes quelqu'un qui est plus souple, plus fluide. C'est-à-dire que la décentralisation, ça a du bon, mais là, on voit que les critères sont élastiques.
Ben, je n'irai pas jusqu'à dire ça, M. Arcand. Je pense qu'on a quand même 14 000 entreprises qui ont été aidées. C'est pas banal, là. Alors, de penser qu'on aurait centralisé ça à quelque part, ça aurait été irréaliste. Je pense que c'est important, c'est la reddition de comptes. Il faut donner du pouvoir aux gens dans les régions, aux gens sur le terrain. Puis, ça prend une reddition de comptes. Il faut que les gens s'expliquent. Est-ce qu'on a mis ça en place? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Absolument. Mais toute la fonction du ministère de l'économie, on fait l'inverse. On s'en va dans les régions. C'est ça qu'on veut faire. On va être près du terrain. Mais il faut avoir des redditions de comptes appropriées, puis on va corriger dans le futur. Mais à date, le résultat de ce qu'on a vu dans le programme, à mon avis, est très bon.
Mais est-ce qu'on convient qu'il y a des entreprises qui se sont vues refuser l'aide parce qu'ils ont frappé à la mauvaise porte, ils auraient été dans une autre région, une autre MRC, puis probablement qu'ils auraient obtenu l'aide?
Ben, écoutez, j'ai pas les statistiques, évidemment.
Mais est-ce que ça se peut?
Oui, ça se peut. Écoutez, c'est géométrie variable. Il y a, faut comprendre encore une fois, là, 15 000 entreprises qu'on a aidées. Il y a 110 MRC, il y a 110, on appelle FLI, des fonds locaux d'investissement. Est-ce que chacun des FLI avait la même approche? La réponse est non. Mais il y a eu de la formation, il y a eu de la reddition de comptes. Mais les gens savaient aussi, je me rappelle à l'opposition, à juste titre, me disaient, M. Fitzgibbon, on va perdre les sociétés du Québec, il faut que vous fassiez quelque chose. Alors, on a fait, on a permis aux gens dans les régions d'utiliser leur jugement. Moi, je pense qu'il faut se fier aux gens, mais ça prend une réduction de compte, puis il faut corriger, il faut assurer qu'il y a la plus grande uniformité. C'est sûr que pour conclure, tous les programmes, là, l'idéal, c'est qu'on ait des normes pour tout. Mais encore une fois, remettez-vous le 13 mars, là, on ferme l'économie, on travaille 7 jours par semaine, les fonctionnaires font un travail extraordinaire. En 6 jours, on arrive avec un programme. Est-ce qu'on aurait pu penser que le programme aurait tout couvert les cas? La réponse est non.
Puisque vous êtes là, deux, trois questions plus générales. Quel est l'état de l'économie? Là, je comprends que votre collègue va présenter là, sa mise à jour financière cet après-midi, là, mais je m'adresse au ministre de l'Économie. On a vu les niveaux d'inflation. C'est quoi le portrait que vous faites, là, l'analyse de l'état de santé de l'économie?
Ben, écoutez, vous allez voir l'après-midi. Je ne veux pas divulguer des choses que mon collègue va divulguer. L'économie du Québec est en avance sur toutes les autres provinces du Canada. On est diversifié. Je pense que l'économie va très bien. L'inflation est un problème. Et une partie est structurelle, puis une partie va être temporaire. Donc, il faut se pencher sur ça. Les chaînes d'approvisionnement sont brisées dans certains cas. Donc, il y a des morceaux d'économie qu'il faut être très, très parcimonieux et ciblé pour aider les entreprises. Mais, règle générale, l'économie du Québec va très, très bien.
Est-ce que vous êtes préoccupé, j'imagine que oui, par les problèmes de main-d'œuvre? Il n'y a pas un secteur, je pense, qui est épargné, là. Des restaurateurs qui coupent des heures d'ouverture, des entreprises qui sont obligées de réduire la cadence. Il manque de Père Noël en plus, je disais ça ce matin. Là. Comment on corrige ça pour... je comprends que l'économie va bien, là, mais où sont-ils tous passés?
On est victime un peu de notre succès, d'une part. D'autre part, vous allez voir, il y a un programme très costaud que M. Girard va annoncer pour la main-d'œuvre. On parle depuis un bout de temps de la requalification. Il ne faut pas oublier, M. Arcan, que vous savez les chiffres, il y a à peu près 200 000 postes non comblés, duquel le trois quarts ne requièrent pas de diplôme universitaire. Puis de l'autre côté, il y avait 250 000 chômeurs. Il y avait des gens d'expérience de ma génération qui pourraient travailler, qui ne travaillent pas pour toutes sortes de raisons. Donc, on a des gens en masse. Il faut les requalifier et il faut avoir un programme très ciblé d'immigration sur les postes qui ne sont pas comblés. Alors, je pense qu'on adresse l'enjeu, vous allez voir, dans les semaines qui vont suivre. Je pense que les programmes costauds que mon collègue M. Boulay va annoncer, qui, je pense, vont faire plaisir à beaucoup de monde.
Mais avez-vous l'impression qu'il y en a qui veulent travailler moins, des gens qui veulent, par exemple, quitter Montréal, s'établir ailleurs, travailler trois jours semaine, être... Autrement dit, il y a une partie... je prends l'exemple de la restauration, là, parce que c'est exigeant en termes d'heures, que des gens abandonnent parce qu'ils trouvent que ça ne vaut pas la peine, que ce n'est pas assez payant, qu'ils peuvent faire autre chose.
C'est une très bonne question. D'ailleurs, il y avait un article dans le New York Times il y a deux semaines qui s'appelle « The Great Resignation » qui faisait état de beaucoup de gens qui ont quitté le marché du travail temporairement à cause de la pandémie et qui ne veulent pas retourner dans leurs travaux pré-pandémie. Ces gens-là veulent bonifier leur travail, avoir probablement une meilleure rémunération. Alors, c'est sûr qu'il y a de ça et c'est sûr que il va falloir accepter qu'il va y avoir des changements structurels dans notre économie. On parle de restaurants, on parle d'autres choses. Alors, on ne peut pas forcer les gens à travailler dans les restaurants, par exemple, s'ils veulent faire d'autres choses. Puis, honnêtement, je regarde les programmes de qualification, de requalification. Est-ce qu'on peut blâmer des gens de vouloir rehausser le niveau de vie? La réponse est non.
Je sais que c'est votre collègue aussi qui s'occupe du dossier hockey nordique. Qui s'occupe du dossier baseball? Est-ce que c'est vous ou c'est lui?
Moi, je suis le ministre du baseball et M. Girard est le ministre du hockey.
Bon, qu'est-ce qui arrive avec le baseball?
Il est trop tôt. On va, je pense que c'est au promoteur à expliquer à la population quel est le projet. Je pense que le promoteur est en train de regarder ça. C'est pas le travail du gouvernement de promouvoir le dossier. Le gouvernement, le ministère de l'économie, moi en l'occurrence, on est là pour regarder ce qu'on peut faire. Mais on va laisser au promoteur le soin d'expliquer c'est quoi le projet.
OK. Vous n'avez pas des démarches directement avec le baseball majeur. Votre interlocuteur, c'est le groupe qui veut ramener le baseball en ville.
Le ministère de l'économie, nous sommes au support des gens qui veulent faire des projets baseball ou tout projet confondu. On est ici pour créer de la richesse. Puis si un projet qui est de la richesse, on va le regarder.
OK. Puis est-ce qu'il y a eu des demandes jusqu'à maintenant de fait de soutien gouvernemental?
Il y a des discussions, c'était public, des discussions qu'on a eues avec le groupe en question. Maintenant, il n'y a pas eu rien de formalisé encore parce que le plus important, c'est de rendre le projet socialement acceptable. Donc, on va laisser aux promoteurs le soin de parler à la population, puis on réagira en conséquence par après.
OK, parce que comme deux volets, il y a le volet du club, les deux sont liés, là, mais il y a le volet du club puis le volet d'un stade au centre-ville. Donc, ça veut dire quoi? J'essaie juste de comprendre. Là. Je ne vous demande pas de me scouper les investisseurs locaux, là, mais Québec s'intéresse au club, au stade, aux deux?
Écoutez, je vais juste répondre différemment. On a deux stades présentement, n'est-ce pas? Mm-hmm. On a un à Montréal et on a un à Québec. Le gouvernement n'aura pas un troisième stade.
OK, donc votre intérêt dans le club?
On n'aura pas de troisième stade dans les livres du gouvernement.
OK. Mais un promoteur peut décider de s'en faire un?
Bien, absolument. Même vous, si vous en voulez un, on va vous aider peut-être si il y a de la richesse collective.
Vous ne courez pas pire sur les buts.
Je ferai plus vite il y a 20 ans. Oui.
Monsieur Fitzgibbon, merci. Bonne journée.
Ça me plaît.
Au revoir. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Je vous rappelle que la mise à jour sur les finances, l'économie, ben c'est cet après-midi avec le ministre Éric Girard qui sera notre invité demain matin, 7h37.